Bonjour à toutes et à tous, au micro Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé hier une mise en berne pendant 3 jours, de vendredi à dimanche, des drapeaux flottants sur les édifices fédéraux américains pour honorer la mémoire des morts du coronavirus. M. Trump a aussi annoncé une mise en berne des drapeaux lundi pour le Memorial Day, ce jour férié où les Américains célébreront la mémoire des militaires tombés au combat. Il y a eu aux États-Unis, pays le plus endeuillé par l'épidémie, 1255 décès supplémentaires liés au COVID-19 sur les dernières 24 heures, pour un total de 94 661 morts et 1 576 542 cas selon l'université Johns Hopkins jeudi soir. En Chine, d'où est partie la pandémie en décembre, à Wuhan, le premier ministre Li Keqiang a célébré ce vendredi, je cite, une réussite stratégique majeure dans son combat contre le coronavirus, semblant ignorer les critiques émanant de l'étranger, notamment des États-Unis. Notre réussite s'est payée d'un prix élevé, c'est un prix qu'il fallait payer et qui en valait la peine, a-t-il dit en abordant les conséquences économiques de la pandémie et la tâche immense de la relance dans un discours solennel à l'ouverture de la session annuelle du Parlement. Depuis Wuhan, la pandémie a contaminé plus de 5 millions de personnes dans le monde et progresse maintenant avec une rapidité alarmante en Amérique latine, particulièrement au Brésil où le seuil des 20 000 morts vient d'être franchi, mais aussi au Pérou, au Chili ou en Argentine. La police fédérale américaine a lancé jeudi une enquête antiterroriste après qu'un homme a ouvert le feu dans une base militaire du Texas, faisant un blessé léger avant de trouver la mort. Le suspect est décédé, a dit le FBI, sans préciser s'il s'était suicidé ou avait été abattu. Une seconde personne est recherchée. Par ailleurs, arrestation hier de l'auteur d'une vidéo montrant la mort du jeune jogger noir, Ahmad Arbery, qui a suscité beaucoup d'émoi aux États-Unis. William Bryant, 50 ans, a été placé en détention et inculpé pour meurtre, a indiqué la police de l'État de Géorgie, sans autre détail. Une conférence de presse est prévue ce matin. L'Égypte accepte de reprendre les négociations avec le Soudan et l'Éthiopie concernant le remplissage du réservoir d'un méga barrage controversé qu'Addis Abeba construit sur le Nil, source de tensions dans la région. L'accord devra prendre en compte les intérêts de l'Égypte en matière d'eau ainsi que ceux de l'Éthiopie et du Soudan, a annoncé hier soir le ministère des Affaires étrangères. Cette décision du Caire intervient après une conversation entre le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok et son homologue éthiopien Abiy Ahmed ce jeudi. La présidente contestée de la commission électorale du Malawi, Jane Ansah, a annoncé hier soir sa démission un mois avant l'élection présidentielle prévue après l'annulation pour fraude de la réélection de Peter Mutharika. L'opposition et la société civile réclamaient depuis des mois son départ, l'accusant d'avoir couvert les irrégularités qui ont permis la prétendue victoire du président sortant. Les enfants de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien assassiné en octobre 2018 dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, ont annoncé dans un tweet vendredi qu'ils pardonnaient aux tueurs de leur père, qualifiant l'ancien confrère du Washington Post de martyr. La bourse de Hong Kong a plongé aujourd'hui de plus de 4% lors de la première séance après que la Chine a annoncé son projet d'introduire une loi sur la sécurité nationale dans le territoire autonome, faisant craindre de nouvelles tensions. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, au micro Idrissa Seydoudia. La suite de nos informations. Les États-Unis ont dit jeudi espérer un retour à des relations plus normales avec le Burundi au lendemain de l'élection présidentielle dont ils ont salué le déroulement. Pour les résultats, le président de la commission électorale burundaise appelle à la patience, Nathalie Barge.
Ce n'est un secret pour personne. Nos relations avec le Burundi ne sont pas du tout cordiales, a déclaré le secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique, Tibor Nage. Une fois qu'un gouvernement sera formé à l'issue des élections, nous espérons voir si on peut renouer des relations plus normales, a-t-il ajouté lors d'un échange téléphonique avec des journalistes. Nous voudrions être optimistes, a dit M. Nage, qui s'est dit encouragé par les rapports de l'ambassade des États-Unis à Bujumbura sur le déroulement du scrutin. Nous allons suivre cela de très près, a-t-il souligné au sujet de l'annonce des résultats, appelant toutes les parties à éviter les provocations ou la violence et à respecter les droits démocratiques. Sur le terrain, le président de la commission électorale, Pierre Claver-Cazizé, a appelé à la patience pour la publication des résultats. Selon lui, cela va prendre du temps, sachant que la CENI entend publier simultanément les résultats de la présidentielle, des législatives et des communales.
Lutte contre la pandémie de COVID-19 au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba équipe son pays d'un laboratoire mobile pour les dépistages de masse. Une annonce présidentielle faite sur les antennes des chaînes publiques. L'adresse à la nation de l'exécutif gabonais rassure peu sur l'issue de la crise, mais rend tout de même hommage au personnel de santé. Sur place à Libreville, notre correspondant Ismaël Obiangze.
Le Gabon vient de se doter d'un outil performant inédit dans la sous-région. C'est par cette déclaration qu'Ali Bongo Ondimba annonce la mise en service dès la semaine prochaine d'un laboratoire mobile capable de réaliser 1000 tests COVID-19 jour contre 700 pour le moment. Selon le président gabonais, cette structure de haute technologie accompagnera d'autres pays du continent. Dans son adresse à la nation d'une durée de 7 minutes environ, le chef de l'État a rappelé la stratégie sanitaire de son pays en matière de COVID-19. Celle-ci est basée sur le triptyque dépistage massif des populations, isolement en cas de test positif pour entraver la propagation du virus et traitement au plus vite des cas déclarés positifs. Ali Bongo Ondimba s'est montré optimiste sur les capacités du système sanitaire de son pays à faire face à la pandémie. Il a rendu hommage au personnel de santé pour, dit-il, leur dévouement, leur professionnalisme et leur abnégation au service des patients. Il leur promet une indemnité COVID-19 comme récompense à leur mérite et à leur sacrifice. Mais ce discours ne chiffre pas les investissements à venir de l'État. On y relève enfin que le Gabon fait la promotion du respect des gestes barrières en attendant l'homologation d'un vaccin au niveau international, a dit Ali Bongo Ondimba. Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
Le nouveau premier ministre du Lesotho, Moketsi Majoro, a présenté hier son gouvernement. Un proche de son prédécesseur, Thomas Tabane, est nommé au poste stratégique de ministre de la Défense, Nani Talani.
Proche de l'ancien chef du gouvernement, Prince Malieye a été nommé ministre de la Défense et de la Sécurité nationale. Ministre des Travaux publics de M. Tabane, il avait soutenu le mois dernier l'intervention de l'armée et hier, il s'est refusé à tout commentaire. Le mois dernier, l'ancien chef du gouvernement avait ordonné à l'armée de descendre dans les rues de la capitale Maseru pour restaurer l'ordre face à ceux qui exigeaient sa démission. Les soldats étaient rentrés dans leur caserne 24 heures plus tard à la faveur d'une médiation sud-africaine. Au pouvoir depuis 2017, Thomas Tabane, 80 ans, a quitté ses fonctions mardi, épilogue d'une crise politique de plusieurs mois depuis sa mise en cause dans le meurtre de son épouse. Enclavé au milieu de l'Afrique du Sud, le Lesotho a connu depuis son indépendance en 1966 une histoire politique instable, rythmée de coups d'État militaires.
La Minute Éco est qui a voté.
L'Union européenne vient d'approuver le décaissement en urgence d'un montant de près de 20 milliards de francs CFA en faveur du Niger, a-t-on appris de la représentation de l'institution européenne à Niamey. Ce montant est destiné au financement du plan global de réponse à la pandémie du Covid-19. Deuxième étape vers la disparition du franc CFA et son remplacement par une monnaie unique baptisée ECO. Selon Jeune Afrique, le Parlement français va adopter avant la fin du troisième trimestre le projet de loi adopté mercredi en Conseil des ministres à Paris pour ratifier l'accord conclu le 21 décembre 2019 à Abidjan entre la France et les pays membres de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Aux États-Unis, les pertes d'emplois ralentissent, mais elles ont atteint 38,6 millions, tandis que les autorités discutent des mesures additionnelles pour sauver l'économie en difficulté. 2,3 millions d'Américains supplémentaires ont été mis au chômage la semaine dernière, moins que la semaine précédente, mais toujours parmi les chiffres les plus élevés jamais enregistrés, selon le ministère américain du Travail.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le président du Comité international olympique a admis que les Jeux olympiques de Tokyo, repoussés d'un an face à l'épidémie de Covid-19, seront annulés s'ils ne se tiennent pas en 2021. On ne peut pas éternellement employer 3000 ou 5000 personnes au sein du comité d'organisation, a poursuivi Thomas Bach, tout en réitérant l'engagement clair à ce que les Jeux se tiennent en juillet 2021. Thomas Bach a admis qu'il faut être prêt à différents scénarios, des mesures de quarantaine pour les athlètes, pour une partie des athlètes, pour d'autres participants ne sont pas à exclure. D'après le patron du CIO, initialement prévu pour cet été, les Jeux de Tokyo sont désormais reprogrammés du 23 juillet au 8 août 2021. En Allemagne, après les footballeurs au tour des footballeuses, le championnat féminin va reprendre à huis clos le 29 mai. La Bundesliga masculine a déjà repris samedi dernier, sans public et avec des conditions sanitaires strictes pour éviter la propagation du coronavirus. Les clubs de Bundesliga féminine ont voté à une large majorité pour la poursuite de la saison lors d'une réunion extraordinaire des dirigeants le 30 août. 11 des 12 clubs voulaient continuer à jouer. Seul le FC Cologne s'est abstenu. La saison doit reprendre le 29 mai avec un premier match opposant le leader Wolfsburg à Cologne. En Angleterre, Manchester United a publié des résultats pour le troisième trimestre 2019-2020 affecté par le coronavirus, avec notamment 16,7 millions d'euros de manque à gagner sur les droits télé, soit une baisse de 51,7% par rapport à l'année précédente. Le directeur financier du club, Cliff Batty, a chiffré à 25,6 millions d'euros l'impact total de la pandémie sur le chiffre d'affaires du club depuis qu'elle a mis le football anglais à l'arrêt le 13 mars. Le club dit s'attendre à ce que les matchs puissent reprendre en juin et que la totalité des compétitions de la saison, y compris européenne, puisse être achevée fin août. La Première Ligue a autorisé la reprise des entraînements en petits groupes et travaille pour reprendre la compétition dans la seconde moitié de juin. Ici aux États-Unis, le site de Disney World à Orlando a la préférence de la NBA pour y reprendre sa saison. Selon The Athletics, pour la NBA, Disney World, ses complexes hôtels et ses services nécessaires, a toujours été la plus attrayante de toutes les possibilités. La chaîne de télévision ESPN a rapporté pour sa part que les matchs redémarreraient peu avant la fin juillet. Jusqu'à présent, la NBA songe à baser les équipes et faire jouer ses matchs dans une ou deux bulles en quarantaine. Las Vegas et Orlando tiennent la corde. Ces derniers jours, Houston apparaît comme un autre site potentiel. L'instance n'a toujours pas décidé d'une reprise de sa saison.
Écoutez VOA Afrique désormais, partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal+.
We'll be right back. aujourd'hui VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sébilia. Nous passons maintenant à vos dossiers du jour. Au Sud Kivu, le seigneur de guerre, Maéché Simba Wankutu, vient de déposer les armes avec une centaine de ses combattants. L'opération de reddition s'est passée en territoire de Walungu, sous la facilitation de la MONUSCO. Reportage de notre correspondant Ernest Mouero.
C'est dans une ambiance des chansons et des pas de danse qu'une centaine des combattants de l'état-major du groupe Mai Mai Molangane pour la défense du peuple ont célébré la fin de leur lutte armée dans le maquis depuis plus d'une décennie. C'est suite à une décision de leur chef, le général autoproclamé Maéché Simba Wankutu, qui a été approché par la MONUSCO. Il vient de faire allégeance au FARDC et appelle ses éléments à faire un choix entre la vie civile ou l'armée loyaliste.
J'ai posé ce geste et je vous demande tous de suivre mon exemple. Vous allez le faire. Ceux qui sont encore en forêt et ne veulent pas se désarmer, ils auront affaire au gouvernement.
Le ministre provincial de l'Intérieur et de Sécurité au Sud Kivu a fait les déplacements pour prendre acte de cette reddition. Luabandji Luasingabu.
Le gouvernement provincial est grandement satisfait de voir que des fils de la province ont décidé de répondre à l'invitation du chef de l'État, le président Tshisekedi, qui a souhaité que tous les compatriotes qui sont dans les groupes armés déposent les armes et se consacrent désormais au développement du pays. D'autant plus que, comme vous le savez ici, la population a beaucoup souffert des affres de la guerre. Des femmes ont été violées régulièrement. Ici, des situations de pillage ont été multiples et déplorées. Nous pensons qu'un nouvel espoir est permis à partir d'aujourd'hui. Mais nous savons qu'il y a un travail à faire. Il faut les accompagner pour qu'ils ne rentrent pas en brousse.
120 combattants, dont 10 femmes, ont déposé les armes et reçoivent un kit pour le début du processus DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. 20 armes, dont 17 individuelles et 3 d'appui, plus 2000 munitions ont été rendues. Karna Soro, chef des bureaux de la MONUSCO au Sud Kivu et Maniema.
Le message fort, c'est celui que la représentante spéciale a toujours véhiculé, c'est de dire qu'il n'y a aucun avenir dans la forêt, dans les brousses. Il faut que tout le monde sorte. Qu'ensemble, on travaille avec le gouvernement congolais pour relever ce pays. Donc, avec la commission provinciale de désarmement communautaire, nous allons continuer à travailler avec eux pour aller vers les autres unités. Et pour le moment, nous avons des combattants aujourd'hui, donc, que nous avons désarmés et ils vont être reversés dans un programme de réinsertion, d'intégration communautaire ou à travers des projets, ils seront pris en charge dans leur communauté.
Les leaders de la chefferie d'Ingouchi, Mouamina Tabaye Oweza III, salue ses gestes et appelle le gouvernement à vite déployer les forces loyalistes dans les zones occupées jadis pour que d'autres forces rivales ne s'en prennent pas à la population.
Pour nous, c'est un grand jour. Les brebis égarées, ils sont revenus en droit chemin dans les FARDC. Jusqu'à présent, ces jeunes-là faisaient aussi un devoir important de protection ici, dans la région. Leur départ, s'ils ne sont pas rapidement remplacés par des FARDC, leur action risque de ne pas avoir beaucoup de bons fruits parce qu'ils restent chez nous. Nos voisins, Ninja, du côté de Shabunda, des groupes armés, ils constituent encore des nids d'insécurité ici pour la région.
La cérémonie de reddition a été marquée par la présence de plusieurs officiels de la 33e région militaire de forces armées de la RDC. Ernest Mouero à Tshisadu, au Sud Kivu, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Au Tchad, les autorités ont décidé d'alléger certaines mesures prises pour combattre la pandémie de COVID-19. L'assouplissement va de l'autorisation de la circulation des moyens de transport urbain, avec un nombre limité de passagers obligatoirement masqués, à la réouverture des restaurants, des coins de grillade et des marchés. De N'Djamena, reportage de notre correspondant André Kodmadjingar.
Deux mois après la fermeture des restaurants et lieux de grillade, ils sont maintenant autorisés à rouvrir leurs portes. Une décision qui intervient à la veille de la fête de Ramadan. Sourire aux lèvres, les bouchers se précipitent pour nettoyer les coins et recoins ainsi que le matériel de leur établissement, redevenu propre et presque flambant neuf pour accueillir les clients le jour de la fête.
Je suis très content parce que nous, les autres, on n'a pas d'autre travail, donc avec ça, nous sommes en train de nourrir les familles et tout ça. Avec nos économies, là, tout est parti. À la fin de Ramadan, là, peut-être les gens vont gagner, là. On va récupérer un peu de l'argent.
Vraiment, on est vraiment content. Tout ça, là, on va laver d'abord. On va commencer le travail. Dimanche ou lundi. Comme le Ramadan, là, c'est déjà fini, là. Pendant le Ramadan, là, les gens sont contents de manger, là, c'est bon. Et le Ramadan,
les effets, là, avec les saletés, là, ça marche pas. À cause de ça, là, on lave bien. Parce que deux mois comme ça, on n'est pas le travail, là. L'installe, pendant la fête, là, on fait le commencer le travail.
Ces restaurants et les gargotes, selon le comité de gestion de crise sanitaire, doivent fonctionner dans le respect des mesures sanitaires et donc en mode vente emportée par les clients. Mais les frites, deviennent grillés, commencent déjà à saliver et préfèrent manger sur place.
Ça fait deux mois depuis qu'ils ont fermé. Je n'ai pas mangé la viande. Aujourd'hui, j'ai vu là, je suis trop content. C'est comme ça que je suis venu pour manger là.
Maintenant, on est venu, on va manger. Tu as ton cabinet, tu mets en bas ici, il va manger et tu le mets en plat. Tu ne mets pas ça, c'est pas normal. Non, je suis très très content. Ça, c'est bien quand même. Merci.
Ibrahim Mahamat, un autre boucher, affirme à VOA Afrique avoir perdu gros et demande au gouvernement de penser aux plus vulnérables à l'avenir.
Vraiment, nous souffrons. Certaines personnes sont mortes de faim et non de coronavirus. Moi qui vous parle, avant les mesures barrières, j'ai fait le stock de la viande dans mon réfrigérateur pour une valeur de 3 millions de francs CFA. Aujourd'hui, tout est pourri. Alors, est-ce que c'est le gouvernement qui va rembourser mon argent? Sinon, comment je vais faire pour payer les dettes? J'ai fait deux mois à la maison sans activité. Les gens sont pauvres et donc, prochainement, s'il y a des mesures à prendre, il faut que le gouvernement consulte la population.
Outre la levée des mesures sur la fermeture des restaurants, marchés, boutiques et magasins, les minibus et taxis sont également autorisés à circuler dans le périmètre urbain avec limitation des nombres de passagers. 4 dans les taxis jaunes et 10 dans les minibus avec port du masque obligatoire. Les citoyens ont des avis partagés.
Certaines personnes se nourrissent à base de ces petits métiers. Donc c'est une bonne chose, mais les autorités doivent aussi faire le suivi. Est-ce que ces restaurants doivent préparer et faire emporter et non manger sur place pour ne pas encore propager la maladie? Et les minibus aussi, le nombre indiqué doit être aussi respecté.
Les choses se relancent là, vraiment l'activité même là, ça serait mieux par rapport à avant. Les gens n'arrivent même pas à trouver à manger, ils n'arrivent même pas à sortir de chez toi.
Pour les transports là, je vois que c'est pas bien parce que les conditions ne sont pas réunies. Il y a trop de risques parce que je vois que les gars n'ont pas de gel ou soit de moyens de protection pour leurs passagers.
Par contre, les mesures fermant les mosquées et les lieux de culte sont toujours en vigueur alors que les musulmans se préparent pour la grande fête pour célébrer la fin du Ramadan. André Godoumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
L'Eid, communément appelé Korité, est l'une des fêtes religieuses les plus importantes pour les musulmans. Au Sénégal, la fête englobe tout un business, des tailleurs aux vendeurs de produits agroalimentaires en passant par les éleveurs de volailles. Tout ce beau monde y trouvait son compte avant que la pandémie de COVID-19 ne paralyse la quasi-totalité de leurs activités. Reportage de notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Au Sénégal, Eid rime avec joli boubou, mais cette année, cette tendance n'est pas à l'ordre du jour à cause du COVID-19. Chez les couturiers, la forte affluence a laissé place au néant, comme l'affirme Abdoulaye Khouma, tailleur à Wahina Nimzat, dans la banlieue de Dakar.
Ça ne marche pas depuis que le coronavirus est rentré dans le pays. D'ailleurs, deux mois avant la Korité, nous n'avons plus de commandes. À plus forte raison, c'est cette période de Korité. Donc, du coup, on est là, mais on ne travaille pas. Vous avez vu, vous avez même trouvé mon atelier un peu fermé. Ça ne marche pas du tout. Comme on dit souvent, c'est des périodes de vaches maigres, vraiment. On n'a pas de commandes, on n'a pas d'argent.
Les éleveurs de volailles sont également sans ressources durant une période où ils sont d'habitude assaillis par les clients. Le poulet, servi pour le grand festin de l'Eid, est aujourd'hui très affecté par le COVID-19. Serigne Salou Sek est éleveur dans la périphérie de Dakar. Il dit vivre l'un de ses pires moments.
Bon, actuellement, les crises de la pandémie ont soulevé de véritables problèmes. Bon, les clients ne viennent plus comme ils le faisaient. Du coup, cette crise a complètement baissé les revenus que nous devons avoir. surtout à l'approche de la fête de Corité. On a baissé les prix pour que les clients puissent avoir les poulets à un prix favorable. Du coup, on peut dire que on a baissé les prix pour que tous les clients puissent avoir les poulets.
Dans les marchés également, les vendeurs de produits agroalimentaires vivent le même calvaire. L'engouement habituel suscité par l'Eid a été balayé par le Covid-19. Ousseynou Gaye ne voit plus l'ombre d'un client.
Le business ne marche pas. Toi-même, tu as vu, il n'y a même pas un client qui est entré ici depuis que tu es arrivé. Voilà quoi. Bon, nous, on ne peut pas sortir et dire les gens de venir acheter. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est que, bon, nous pouvons que acheter nos marchandises, elle est exposée et attendre les clients venir. Et nous aussi, on est obligé de baisser les prix. Ça, c'est une évidence, quoi.
Dans les ateliers de couture, les poulaillers ou les marchés, le constat est le même. L'activité est au point mort. La fête de l'Eid, qui est une source de revenus conséquente, a perdu son ampleur à cause de la présence du Covid-19 et son impact économique est également en chute libre aux grandes dames des acteurs. À Dakar, Sidina Bagui pour VOA Afrique.
Les autorités kényanes ont expulsé de force ce mois-ci plus de 7000 personnes des bidonvilles de Nairobi, malgré une décision de justice et en pleine pandémie de coronavirus. Ces expulsions ont provoqué une émeute. Les autorités disent avoir démoli les maisons parce qu'elles ont été construites sur un espace public. Certains expulsés affirment avoir acheté leur terrain. Pour d'autres, faire des expulsions massives pendant une pandémie est tout simplement inhumain. Reportage de Mohamed Youssouf à Nairobi, repris ici par Claire Morin-Gibourg.
À 42 ans, Daniel Dungu et ses trois enfants fouillent les débris de ce qui reste de leur maison où ils habitaient depuis plus de 10 ans dans le quartier du Rouaï à Nairobi. Défiant une décision de justice, les autorités ont expulsé de force la famille de Nungu et plus de 7000 habitants de ces bidonvilles qui sont devenus sans abri en pleine pandémie de coronavirus. Daniel Ndungu témoigne.
Je vais rester ici dans le froid et attendre. Maintenant, je n'ai nulle part où aller. Même si je voulais déménager, où pourrais-je aller? Je n'ai pas d'argent. Trouver un nouvel endroit, les gens ne vous accepteront pas parce qu'ils diront que vous avez le coronavirus.
D'autres habitants de ces bidonvilles ont réussi à emménager chez des amis ou des parents dans des maisons déjà surpeuplées. Ces expulsions qui ont commencé en avril ont fait plus de 5000 sans-abri dans le quartier de Kariobangi à Nairobi. La société de distribution d'eau et des égouts de Nairobi se dit propriétaire de l'espace et affirme que les familles l'occupent illégalement depuis 2008. Le ministre de l'Intérieur, Fred Matiang'i, justifie ces expulsions.
Les gens le savent. Ils sont installés sur un terrain public. Il y a un projet qui se termine ici. Nous pouvons probablement ouvrir et étendre les égouts dans cette direction. Les gens le savent et pourtant, les gens ne bougent pas ou ils continuent à y rester.
Hussein Wako a 37 ans et il est boucher. Il affirme qu'il possède des reçus du gouvernement prouvant qu'il a acheté le terrain d'où il a été expulsé. Mais les terrains publics sont trop souvent vendus illégalement au Kenya, laissant ceux qui ont été trompés comme Wako sans abri et sans recours.
Ils ont démoli notre maison et fait de pauvres gens. J'ai dormi dans le froid pendant 2 jours et il y a une pandémie de coronavirus. Ils nous ont dit de rentrer chez nous lorsque nous avons manifesté contre les démolitions. Ils ont bloqué la manifestation et nous ont dispersés à coups de gaz lacrymogène.
Une petite émeute a éclaté au début du mois. Les expulsés ont affronté la police à Kariobangi et ont mis le feu à des voitures et à des pneus. Une haute cour kényane avait pourtant ordonné l'arrêt des démolitions jusqu'à ce qu'une pétition de résidents soit entendue en juin. Mais pour des milliers de Kenyans déjà sans abri et pour ceux qui continuent à être expulsés, il y a peu d'espoir qu'ils obtiennent justice.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde pour aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.